Bon, alors, cet après-midi, je suis très content de les recevoir parce que c'est trois solidarités anciennes et insistantes, et j'espère que ce n'est pas fini. Ce sont des amis chers, très chers, et pour pas cher. Alors, ça se passe autour des histoires insensées du conteur René Martinez. René Martinez. Qui est conteur officiel du Zeste musical depuis 1872. Et je ne peux pas dire accompagné parce que vous allez voir. Il est interpellé au piano par François Rosset, qui est un musicien, compositeur et improvisateur, et qui réfléchit sur la musique et sur la musique dans la réflexion. Je lui dois beaucoup. Bravo. Et puis Michel Etchecopar, qui vient de là-bas, de la Soule, qui chante comme personne les oiseaux. C'est un poète. Ensemble, ils vont jouer balade sans bagage ni raison.
Haiki insien kakapla lehen lehen min sasalian sat eni shalvi hansat.
Oui, de mon temps, ou plutôt du temps où j'étais jeune et même enfant. Ça se passait dans les Pyrénées, plus précisément en Bigorre. On n'avait pas la télévision, mais on n'en était pas privé puisqu'on ne savait pas que ça existait. Mais on avait un grand-père Alors vous allez, vous dites, il nous fait le coup du grand-père. Et oui, mais seulement moi, c'est vrai. Et en plus, on avait un grand-père le plus étonnant de la région. Un parlant, un diseur de mots. Qui n'avait pas son pareil pour raconter ses cantarailles. Alors, évidemment, il était là souvent, il travaillait dans la journée. On faisait avec lui des balades dans la nature et il avait quelque chose à nous dire, à nous montrer à chaque pas. Et puis le soir, il devenait, comme on disait avant, un conteur de cheminée et des voisins venaient souvent pour bavarder avec lui. Il y avait aussi Mémé, Mémé qui, chaque soir, troquait son tablier de travail contre une petite veste en calicot frangée de dentelle et qui tricotait le plus souvent des chaussettes, ce qui l'empêchait pas de participer à la discussion. Et puis, il y avait aussi Marianette qui était l'ami et le voisin de longue date. Et il y avait un rituel chaque soir, bien que... Ce n'était pas toujours divertissement. Quelque soir, il y avait les soirs d'espelouquère. Les soirs d'espelouquère, nous, les enfants, on ramassait les graines de maïs tombées et on les faisait éclater sur la cheminée. On nous avait dit que ces graines de maïs, comme ça, qu'on faisait éclater, ça s'appelait les damiselos, les demoiselles. C'est quand même plus joli que pop-corn. Hein. Et puis, Pépé arrivait de venir de nourrir les bêtes. Il s'asseyait, il faisait le point un peu sur ses rhumatismes et puis il annonçait à sa manière le temps du lendemain comme en disant « Demain, soleil, ça veut dire chaleur pour ceux qui travaillent et détente pour les autres, beau temps. » Et puis ensuite, il y avait deux spots, le premier c'est quand il disait Plamignat, il avait bien mangé, mais était contente, mais après il disait Caissette, il fallait le faire boire, là elle était moins contente. Et puis c'était le deuxième spot, alors là c'était curieux, parce qu'il caboussait de la tête, ça pouvait se passer avant, pendant qu'il avait commencé à compter, il fermait les yeux, et c'était plutôt un spot du genre « nous excusons pour cette interruption momentanée du son ». On lançait une châtaigne dans le feu, il se réveillait. Et il repartait. Alors, le plus souvent, ça commençait par les informations locales. Avec le maire dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'aimait pas, lui non plus, il n'aimait pas trop le maire. Et alors, il disait, il a fait construire un terrain de rugby en pente pour avantager l'équipe locale. Il ne sait même pas qu'à la mi-temps, on change de côté. Et son fils, vous savez, celui qu'on appelait Ficelle, il a mal tourné. Il était un peu simplé, vous vous rappelez. Il est devenu gendarme. Alors Mémé disait, ne leur dis pas des choses comme ça. Il lui disait, mais c'est pour leur dire à qui ils auront affaire. Hein. Et François, le garde champêtre, il est tombé dans l'étang. Pendant un moment, il a vu le pic du midi à l'envers. Mais il s'en est tiré tout seul, hein. La chaisière de l'église, celle qui a tellement de cornes sur le front depuis qu'elle fait des signes de croix, elle a dit que c'était Dieu qui l'avait sauvé. Moi, je ne dis pas non, mais j'ai remarqué que Dieu, il sauve souvent ceux qui savent nager d'abord. Et puis, il y avait des légendes, et celle qu'on entendait le plus souvent, c'était la légende des grenouilles géantes. Il disait, dans le temps, on ne peut jamais savoir quand c'était, mais dans le temps, le pays avait été envahi par des grenouilles géantes. Qui ne coassaient pas comme les grenouilles de chez nous, disait Pépé. Elles avaient l'accent du Nord. Mais au lieu de se contenter des insectes comme les nôtres, elles mangeaient les salades. Et on ne pouvait pas s'en défaire. Jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'elles raffolaient des champignons. Mais elles ne savaient pas les reconnaître. Alors, des amanites phalloïdes bien vertes, là, on les a mises tout autour, disait Pépé, et l'affaire fut réglée. Hein. Et il terminait évidemment en disant, vous voyez que c'est utile de connaître les champignons, hein, parce qu'il nous amenait aux champignons. À chaque fois qu'on en trouvait un, il fallait qu'on ait toute la formule. Champignon, petit champignon, fais-nous trouver ton compagnon. Et il nous amenait donc au bois, et puis un jour il nous a dit aussi comme ça, si vous venez tout seul chercher des champignons et que vous êtes perdu, hein, ne vous fiez pas à la mousse des arbres, il n'y a que les scouts qui croient qu'elle pousse au nord. Hein. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ramassez toute la mousse que vous pouvez trouver, vous en faites un grand tas de 2 ou 3 mètres. Ah bon? Puis vous montez dessus et vous criez au secours, on est perdu. Alors il nous dit, non, c'est une blague que je vous dis là, si vous voulez venir tout seul au bois, vous amenez Bandoulier, l'âne de Marianette, lui vous ramènera, hein, et vous ne serez pas les premiers à être dirigés par un âne, hein. Je ne vous dis pas à qui je pense, mais j'en ai plein la tête, hein. Et puis il continuait comme ça, et quelquefois après il y avait le débat, un débat qu'il faisait à lui tout seul. Ça avait une résonance particulière parce que c'était pendant la guerre de 39-45, et c'était ce temps. Et il parlait, les adultes discutaient de la guerre, nous, ils ne voulaient pas tout nous dire, disait-il. On les entendait comme ça. Oh, ce qu'on savait, parce que Pépé il ne faisait que le répéter, c'était le gouvernement est à Vichy, dans une ville d'eau, c'est une honte. Et il disait, la République risque de s'y noyer. Et derrière la porte de la grange, il y avait une carte de l'Europe, avec les petits drapeaux qui représentaient les armées américaines, russes, anglaises, françaises. Et Pépé, il écoutait Radio Londres en mettant l'oreille contre le poste, et puis après, il déplaçait les petits drapeaux. Il ne trouvait jamais que les Français l'évitent. Alors, il disait, allez-y, un coup, on a reculé en 14, on a reculé en 39, ça suffit, il disait. Et puis, un jour, comme ça, on a vu ce que c'était la guerre de près. Alors, Pépé nous a expliqué que les Allemands étaient à Tarbes, et que des bruits disaient qu'ils allaient monter dans la vallée. Voilà, on s'est couché comme ça, triste, et on a été réveillé en pleine nuit. Et Pépé nous a dit, allez, on va s'éloigner. On est monté à la forêt de la Hèche. On a marché toute la journée. On était avec Marianette et son âne qui portait en cas une miche de pain, un sac de noix et quelques pommes. Jamais on n'a vécu une vie aussi triste. Pépé ne disait pas un mot. On a marché longtemps, on est arrivé à la forêt de la Hèche, on entendait le canon. Et Pépé nous disait que c'était le mortier, que c'était un mortier. Et puis on est resté là, à la forêt de la Hèche, tard, jusqu'au soir. Peut-être qu'on devait rester là la nuit, on ne savait pas. Et puis quelqu'un est venu, un maquisard, nous a dit, Pépé, avec une mitraillette qu'on n'avait jamais vue, nous. Et il a dit que les Allemands étaient partis, qu'on pouvait redescendre. Alors on est redescendu, on est arrivé juste que le soleil se levait. On s'est couché après avoir mangé la soupe, quand même, mais dans une atmosphère triste. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, il n'y avait pas Pépé, mais il nous a dit qu'ils avaient été avec Marianette à Bagnères. Et quand ils sont revenus à midi, ils nous ont dit que les Allemands avaient fait 32 morts parmi les gens qui passaient dans la rue. Et Pépé nous a dit, voyez, c'est ça, la guerre. Mais il nous a dit quand même qu'après le départ des Allemands, on avait trouvé une musette oubliée par un soldat allemand, et que c'est dans cette musette, il y avait un petit chat blanc. Et alors nous, les enfants, on se demandait ce qu'allait devenir ce petit chat blanc.
marmau jana se kaur hau garos parandia. Marmau, marmau, jana se kaur hau biarra sa de kaur.
Et puis un jour, Marianette est rentrée en courant dans la maison en nous disant « Ça y est, c'est l'armistice, la guerre est finie !» Alors on a allumé la radio, elle restait allumée toute la journée, on entendait qu'il y avait beaucoup de morts, on entendait la musique militaire, on entendait des chansons. Et nous, on se demandait avec les enfants, peut-être que le soldat allemand pourra revenir chercher son petit chat blanc. Et le soir, plein de gens sont venus à la maison. Tellement qu'on a passé la soirée sur le hangar avec accordéon, banjo, guitare. Tout le monde dansait, même Pépé et Mémé dansaient. Et nous aussi, on dansait. Et il y avait des gens des villes qui parlaient. Ils parlaient de choses qu'on ne connaissait pas, nous. Ils disaient, fini les restrictions, fini les cartes d'alimentation. Nous, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, tout ça. Simplement qu'on entendait Pépé qui rouscaillait parce qu'il n'y avait plus de café. Et pendant 4 ans, on l'a entendu dire, mais où est le café? C'est quand même pas les Allemands qui le boivent tous. Comment ça se fait qu'on n'a pas de café? Alors, il fallait griller de l'orge à la place. Et Pépé disait, l'orge est au café, ce que le champignon de Paris est au cèpe. C'est pareil. Et puis, avec des châtaignes, parce que le blé, il était réquisitionné. Alors ça, Pépé nous avait expliqué ce que ça voulait dire réquisitionné. Si bien que les boulangers faisaient du pain de maïs, celui qui est maintenant pain de luxe dans les modernes boulangeries. Et avec les châtaignes, Mémé faisait tout. Elle faisait de la soupe, elle faisait des gâteaux et elle faisait du pain. Le reste, on n'en était pas privé parce qu'on ne savait pas que ça existait. Nous, on a trouvé le goût du chocolat en 1946. On savait que ça existait parce que devant l'épicerie, il y avait une grande plaque métallique, chocolat meunier. Devant cet épicier qui n'avait plus grand-chose à vendre et qui avait mis une affiche, il avait mis « En temps de guerre et en cas d'urgence, patientez ». Et puis il y a eu, comme ça, il y avait un bal, hein, et à un moment donné, entre deux rondeaux, Pépé nous a appelés, les enfants, il nous a dit « Vous savez, vous allez vivre dans un monde sans guerre. Parce que moi, j'ai fait celle de 14-18. On nous avait dit que c'était la dernière, mais cette fois-ci, c'est sûr, il y a eu, c'est fini l'époque barbare. Hein. Donc, l'argent des tanks, des obus, des avions va être utilisé pour que plus personne dans le monde ne meure de faim ou de froid. Hein. Vous allez vivre dans un monde comme ça, sans guerre. Mais la paix, hein, il faudra l'entretenir.
Jin eta bihikatzen bat abestian ordarin Urtiak jin eta bihikatzen bat abestian ordarin Eskernegia eskuin argia jauzi aitzina dantzarin Doble zutzuli eskiak utzi pikazungu asuiari La 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 Goren goren igure izara xuri gori argizale Goren goren igure izara xuri gori argizale Ekia gai egunen egile ziren moraren jakile Tra la 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 la
Je ne vous ai pas dit, mais toutes les soirées n'étaient pas identiques. Et moi, celle que je préférais, c'était le dimanche, parce que Pépé, il travaillait pas, sauf quand il fallait rentrer du foin en cas de la pluie. Alors, il jouait aux quilles. Et là, peut-être qu'il devait chouquer un peu plus que d'habitude. Alors, il restait allumé jusqu'à 2h du matin. Là. Et puis, il y avait le vendredi. Et le vendredi, c'était la soirée X. Avec des histoires pas recommandées aux enfants. Alors, on nous envoyait au lit. Mais comme l'insonorisation n'avait pas été prévue dans cette maison, on entendait les histoires au lit. Et on rougissait quelquefois au lit. Vous essayerez cette sensation, si vous n'avez pas. C'est drôle. Et puis surtout, il y avait des histoires qu'on ne comprenait pas. C'était ça qui nous tracassait beaucoup. Pépé, par exemple, il racontait une histoire, il racontait plusieurs fois. Il disait, voilà, j'étais une famille, on les appelait, ils étaient tellement maigres qu'on les appelait la famille Bourkekaï. Ça veut dire, tu souffles et ils tombent. Et un jour, la fille est devenue enceinte. Évidemment, c'était pas facile, hein, c'était pas difficile de le voir, hein, comme elle était. On aurait dit un vermicelle avec un nœud au milieu. Alors la mère, elle l'a fait venir et elle lui a dit, raconte-moi comment ça s'est passé. Et la fille lui a dit... Je gardais les vaches et il a sauté le fossé. Qui ça? Le Baptistou. Ce rechichouette, ce payarote. Et alors? Alors, on s'est embrassé. Oui, bon, et après? On s'est encore embrassé. Oui, 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 bon. Et puis, on est tombé sur l'herbe. Oui, alors là, raconte-moi. Je ne peux pas te dire parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai perdu la tête. Alors la mère, elle lui annonce de tête sonore que la pauvre fille n'avait plus de vernis sur les joues. Et elle dit, espèce de couillonne, tu appelles ça la tête? Et nous, on se demandait ce que ça voulait dire. Alors, on n'osait pas le demander à Pépé, puisqu'on était censé ne pas l'avoir entendu. Je vous l'ai dit, on n'avait pas la télévision, oui. Alors, on ne savait pas. Et puis, un jour, Pépé était content parce qu'il écoutait la radio. Il nous a dit, vous savez, il y a des bonnes nouvelles après la guerre, là. On va créer la sécurité sociale pour que tout le monde, les riches comme les pauvres, puissent se soigner. Hein? Et puis, il va y avoir aussi l'ONU qui va remplacer la Société des Nations qui n'a pas fonctionné puisqu'il y a eu la guerre. Et vous allez vivre un monde sans guerre et vous avez de la chance parce qu'il n'y a plus à y avoir de guerre. Les pays vont se parler. Hein? Vous ne croyez pas, les enfants, les pays, hein? Ils vont tous parler. Bon. Et ceux qui vous diraient que si vous diront que c'était mieux avant, on leur dirait que ce sont des couillons. Couillon était le seul mot que Mémé autorisait à Pépé. Il faut dire que Pépé et Mémé, ils parlaient bigourdan. Une belle variété de la langue d'oc. Et à nous, c'était défendu puisque c'était interdit à l'école. Mais à force, évidemment, qu'on comprenait ce qui se disait. Et comme Pépé n'avait le droit de dire des gros mots, les jurons, qu'en gascon, nous, on croyait, avant d'arriver à la petite école, que la langue française était une langue lisse et que les gros mots n'existaient qu'en occitan. Et sauf, donc, couillon, auquel on avait le droit. Et un jour, Pépé, il nous a dit aussi, il rouscaillait. Il rouscaillait, il était en colère parce que, pas loin de chez nous, il y avait un golf qui n'avait pas fonctionné pendant la guerre. Et qu'on remettait en état. Et Pépé, il n'était pas content parce qu'il disait il y a certainement d'autres choses à faire avant. Et alors nous, on lui a dit qu'est-ce que c'est le golf. Alors il nous l'a expliqué à sa manière. Et on lui a dit alors à ce moment-là, la question qu'il n'aurait pas fallu qu'on pose, qu'est-ce qui joue au golf? Et il nous a répondu, tous ceux qui jouent au golf ne sont pas cons, mais tous les cons y sont. J'en profite pour dire que s'il y en a qui m'attendent à la sortie, c'est Pépé qui l'a dit. Moi, je n'ai jamais été sur un terrain pour voir s'il avait raison ou non. Donc, Mémé n'a pas été contente. Ils ont échangé un chapelet de mots en gascon. Et puis, le golf est revenu quelque temps. Après, c'est Mémé qui l'a introduit en disant, au marché, on m'a dit que la partie du golf qui avait été refaite, elle a été saccagée. Et là, nous, on a vu Marianette et Pépé se faire de l'œil. Et Mémé a dit, je me demande qui a pu faire ça. Et il y a eu un long silence. Puis au bout d'un moment, Pépé a dit, il y a des malveillants partout.
Thank you.
Souvent, Pépé nous parlait de son instituteur. Il en avait une admiration sans limite. L'instituteur qu'il avait eu jusqu'au certificat d'études. Il nous disait, Lafitte qui s'appelait, c'était un intellectuel. Il a rempli 15 cahiers d'écoliers de sa belle écriture sur la vie de l'ours dans les Pyrénées. Et il n'en a jamais vu un. C'est ça un intellectuel, il nous disait Pépé. Et il dit, mais je lui dois beaucoup parce qu'il m'a fait connaître les livres. Et il nous disait, et on a été bercés par ces mots pendant toute notre petite enfance, l'imprimerie est une des plus grandes inventions de l'humanité. Alors il nous avait fait découvrir, Pépé disait, Victor Hugo, le poète de la liberté, celui qui appelait les pauvres, les misérables, il avait bien raison. Et vous savez qu'il est venu dans les Pyrénées, Victor Hugo, il a regardé les lacs et il a dit, ils ont été creusés par des mains de géants et sculptés par des doigts de fées. Que j'aurais aimé pouvoir parler comme ça. Et puis il y avait Jaurès, le philosophe. Qu'est-ce que c'est Pépé, un philosophe? Et là, Mémé était plus rapide, il dit, pour Pépé, c'est quelqu'un qui est d'accord avec lui. Et Pépé, il marmonnait, vive Jaurès. Et puis, il avait ses livres à lui, qui étaient l'almanach qu'il avait depuis 20 ans, où il sortait ses fameuses cantarailles. Mais on le soupçonnait d'en inventer quelques-unes, mais toujours avec le livre devant, pour faire plus sérieux. En Égypte, quand le pharaon Khéops faisait construire la grande pyramide, il faisait distribuer une ration d'ail journalière à ses ouvriers pour les prévenir des épidémies. Un jour, ils n'ont pas eu leur ration, ils n'ont pas voulu travailler. C'est la première grève de l'histoire. Vous voyez que c'est utile ce que je vous dis, hein? Et dans le livre, ils disent que ça s'est passé il y a 4500 ans, hein? En travaillant la terre, on devient plus vite bossu que riche. Dans ce village, je ne me souviens pas qu'on ait jamais enterré un riche. C'est pour ça que j'aime un peu les poux, parce qu'ils vont sur toutes les têtes, là. Les Basques disent que l'ours est l'ancêtre de l'homme. Je connais quelques Basques, c'est possible. C'est Pépé. Et puis, on avait droit à un petit conte. Et ça commençait par... Il y a longtemps, les oiseaux ne faisaient pas de nid. Alors, un jour, le roi des oiseaux, il les a rassemblés tous. Mais alors tous, ceux qui volaient dans tous les continents, il les a réunis dans le pays le plus beau du monde, la Gascogne. Et il leur a dit, voilà, ce soir, il faudra que vous ayez tous un nid. Vous apprenez dans la journée, tous. Et je repasserai. Alors les oiseaux, la plupart ont fait leur nid. Mais il y avait un couple de tourterelles qui étaient sur un arbre et qui ne bougeaient pas. Alors il y avait des corneilles qui faisaient un nid à la fourche de ce même arbre. Alors pensant que les tourterelles n'avaient pas d'idée ou qu'elles ne savaient pas faire... À chaque fois où ça qu'elle est venue, elle posait une brindille. Il y en avait bientôt beaucoup. Et alors, les tourterelles qui parlaient la langue du pays, elles ont dit à un moment donné, il y en a assez, mais elles l'ont dit à l'autre pays, il y en a prou, c'est pas la peine, prou. Et les tourterelles ont continué comme ça à regarder les autres travailler. Le soir, quand le roi des oiseaux est passé, Il était très en colère contre les tourterelles. Et il leur a dit, pour vous punir, jusqu'à la fin de la, votre vie, vous ne pourrez dire que...
Nula den ari kantari. Pozez, gizakumea duelakoz alaitzen kantuz, ala bestelde nigarrez, eihartzen ari zaizkion nigarrez, egalez. Qui pourrait dire pourquoi chante l'oiseau dans la cage? Est-ce que c'est de bonheur parce qu'il est gay un peu le, l'humain qui est à côté de lui, ou est-ce que c'est de tristesse à cause des ailes qui sont en train de lui flétrir? C'est pas un gascon qui pourrait dire ça non plus. Nurdaki, nur keran dezak, nik ez, zuk ez, renek ez. Thank you.
Mais nous, les enfants, ce qu'on préférait, c'est une balade dans la nature. Je vous l'ai dit avec Pépé, il nous avait quelque chose à nous dire et à nous montrer à chaque pas. Même quand ce n'était pas amusant, parce que deux fois par semaine, il fallait aller au jardin, enlever les dorifères des feuilles de pommes de terre. Alors évidemment, pour nous faire patienter, il nous posait des devinettes. Pourquoi le soleil tourne dans la journée? Alors nous, on répondait un peu ce qui nous passait par la tête. Il nous disait, si le soleil tourne dans la journée, c'est pour que les tomates puissent mûrir de tous côtés. Et puis, il nous disait, et les vers luisants? Quand apparaissent les vers luisants? Alors on nous lui disait, quand il fait mauvais, quand il fait beau, quand il fait humide. Quand... Non, vous savez ce que sont les vers luisants? Les vers luisants, ce sont les larmes des étoiles qui pleurent sur les misères du monde. En ce moment, c'est la guerre. Alors, ça va, pourquoi il y a beaucoup de vers luisants? Ah, bon. Et puis, on continue avec lui dans la nature et il nous disait, par exemple, si vous avez un jour des verrues, surtout, n'allez pas voir le pharmacien. Et coupez la clidoine, là, il mettait là-dessus. Et c'est très bon. Et puis, il fallait aller au jardin aussi, ramasser des épinards, parce que mémé allait les vendre une fois par semaine au marché. Et Pépé, il nous disait, ramassez, ramassez, ramassez. Plus elle en vendra, moins on en mangera. Et puis ensuite, on continuait, il fallait pour mémé quand même ramasser la verveine, la sauge, le tilleul, parce que mémé touchait du jeu, qui a de la sauge dans son jardin, n'a pas besoin du médecin. Et puis aussi, quand mémé n'était pas là, on coupait la tige de la chélidoine, l'herbe au gueux, nous avait dit Pépé, et on l'a fumée en cachette. Et puis dans la montagne, Pépé nous apprenait à déterrer la réglisse. Et on suçait la réglisse et il nous disait, vous savez qu'on l'appelle l'herbe des pauvres, parce qu'on peut vivre plusieurs jours sans boire ni manger avec la réglisse. Mais hé, il vaut mieux que ça ne se sache pas, ça donnerait des idées. Hein? Et puis alors on continuait avec lui à se balader dans la nature comme ça. Et quand j'ai été en âge de faire des études, comme on dit, c'est vers les sciences dites naturelles que je me suis tourné. Alors c'était souvent intéressant, mais ça ne ressemblait pas quand même aux histoires de Pépé. Hein. Quand on parlait du mouron des oiseaux, le professeur nous disait « Stellaria media, dans la famille des Caryophyllacées. Et dans cette famille, aucune plante n'est utile. » Scandale. Alors que Pépé nous avait expliqué que le mouron était tellement apprécié des oiseaux qu'il faisait la queue pour en avoir. Il l'avait vu, Pépé. Et jamais on nous a demandé pourquoi il y avait davantage de lapins que d'écureuils. Alors que Pépé nous avait expliqué que, hein, un écureuil sur une branche en équilibre pour se reproduire, c'est pas facile. Et je crois qu'un jour, j'ai beaucoup pensez à Pépé. Parce que j'étais en quatrième et le professeur nous avait donné une rédaction. Vous vous promenez dans la nature par un bel après-midi de printemps, racontez les sensations que vous éprouvez, les émotions que vous ressentez. Et ce jour-là, j'ai beaucoup pensé à Pépé. Je vais vous le dire comme se le disait ce garçon entre 13 et 14 ans que j'étais. Voilà, vous promenez dans la nature, voilà le sujet de rédaction qu'aiment les professeurs. Il va falloir encore que j'invente la promenade avec les sensations possibles après avoir fait un plan en au moins trois parties et laisser une conclusion qui devra laisser une bonne impression. Ce qui me gêne cette fois-ci, c'est que hier j'ai été dans la nature. Cette rédaction pourrait être une manière de savourer un souvenir très doux d'ailleurs. Seulement, voilà, je suis en quatrième, j'ai 13 ans et demi, je ne peux pas raconter dans cette rédaction que hier, j'étais dans la nature, mais avec Sylvaine. Pourtant, j'ai vu la nature comme jamais je l'avais regardée. La nature était plus colorée que d'habitude. Sylvaine avait une robe bleu ciel. Oui, bon, moi, il n'y est pas dans la nature. Bon, dans la rédaction, il n'y est pas. Le prof, il aurait pu nous dire, vous vous promenez dans la nature avec Sylvaine. Non, il ne pouvait pas. Il doit plus se souvenir du temps où il avait notre âge. Alors, je vais faire la rédaction sans parler de l'essentiel. La bruyère rose et les fleurs des bois embaumées. Point. Nous nous sommes assis. Non. Je me suis assis dans l'herbe haute. Les papillons bleus et jaunes tournoyaient. C'est vrai, ils nous frôlaient le visage. Hein. Non, non, mais dans la rédaction. Les papillons bleus et jaunes tournoyaient. Point. D'ailleurs, ils ne nous avaient même pas vus. Sylvaine avait une robe bleu ciel. Non, pas ça. Bon, mais le ciel était bleu ciel. Aïe, aïe, aïe. Je vois déjà la remarque en rouge dans la marge. Évidemment, le ciel est bleu ciel. Et moi, depuis hier, j'ai quand même un reflet bleu dans les yeux. Le petit chemin sentait la reine des prés. Nous avons traversé le ruisseau des chaussées. Les cailloux nous picotaient les pieds, nous chatouillaient. Nous avons ri. C'est que le brouillon et en recopiage, je mettrai « je ». Et puis, nous sommes rentrés dans le petit bois avec les chênes verts bleus. J'essayais d'éviter le petit hou pour pas que Sylvain ne se pique parce que je lui avais pris la main. Je lui ai montré une plante que nous avait donnée Pépé, qui était une plante avec des feuilles en forme de cœur et qu'on appelle amourette. Je lui ai dit à Sylvain, ça s'appelle amourette, mais je n'ai pas osé la regarder à ce moment-là. J'ai glissé un épi d'orge dans sa manche, nous l'avons cueilli un moment après à l'épaule. Nous étions libres. Oui, mais je m'aperçois qu'en recopiant, si je mets « j'étais libre », il va encore me dire que... Parce que ce professeur, il est sympa, hein, mais seulement pour se moquer de nous, on croit qu'il se moque de nous, il nous dit « je ne moque pas de vous ». C'est de l'humour. Il a énormément d'humour. Alors, ça fait rien. Je marchais, je bavardais, je me racontais des histoires. Là, il va me prendre pour un dingue, mais ça peut passer. J'ai choisi pour m'étendre une place de mousse bien veloutée. Le soleil me caressait. Couché sur le dos, mes yeux fouillaient le ciel à travers les arbres. C'est là que j'ai commencé à être ému. Oui, mais bon, couché sur le dos, mes yeux fouillaient le ciel à travers les arbres. Point. Je voyais tout bleu. D'ailleurs, je ne suis resté ainsi qu'un instant. Ça, je le mets pour qu'ils comprennent que coucher sur le dos, quand on est tout seul à regarder le ciel, ça ne vous prend pas 2 heures, hein, quand même. Et puis, nous avons été vers le petit chemin où il y avait des flaques claires. Et puis, je me suis arrêté. Non, ça va lui plaire davantage. Je fis une brève halte au bord d'une mare où il y avait des têtards, libres de nager où ils voulaient et pas obligés de raconter leur journée. Point. On a vu l'éclair bleu d'un martin pêcheur. Il y avait un granit rose piqueté de mica. Avec Sylvain, on se disait que si c'était des pierres précieuses, on serait riche. Et puis, je me suis roulé dans l'herbe, il y avait des orties, et je me suis piqué. Et je me suis soigné, comme disait Mémé, en mettant de la salive. Et en vrai, c'est Sylvaine qui s'était piqué. Mais c'est moi qui l'ai soigné. Et puis, enfouir son visage dans une gerbe de genêt, sentir leur odeur, la rugosité de ses petits brins et le velouté de ses petites fleurs jaunes, parce qu'avec Sylvaine, on a fait tout ça. Si je mets un recopiant que j'ai fourré ma tête dans une gerbe de genêt, je vais encore avoir droit à l'humour. Et puis c'est là qu'il y avait ce splendide marronnier qui agitait ses branches pleines de hannetons. Je n'ai fait que de l'apercevoir. Je n'ai fait que l'apercevoir parce que à ce moment-là, la tête de Sylvaine a roulé sur mon épaule. Et j'ai plus rien regardé. On s'est embrassé. C'était la première fois. C'est drôle, et avant d'embrasser, la première fois, on se demande comment on va faire. On va mettre les mains, les jambes, les pieds. Puis ça vient tout seul. Moi, j'ai caressé le dessus de sa main, puis après, cette fois, on s'est embrassé en se serrant très fort. Longtemps, hein. Pas si longtemps qu'au cinéma, quand même, mais enfin, longtemps. J'ai vu que ses yeux brillaient, les miens aussi, certainement, hein. Pas loin de nous, il y avait des merles qui semblaient parler. Sylvaine me dit, ils doivent parler de nous, ils nous ont vu nous embrasser. Je lui ai dit, laisse faire, comme le dit Mémé pour certains voisins, quand ils auront tout dit, ils n'auront plus rien à dire. Et puis, on est revenu, et puis c'est pas facile à raconter comme ça. En revenant à petits pas, nous avons croisé les promenades lentes des vers de terre et les fourmis qui se hâtaient en tous sens. Hier, avec Sylvaine, nous, on était plutôt pour les vers de terre. Et puis, c'était l'époque des fleurs chaudes, des narcisses, la floraison des pivoines satinées. C'est là que je me suis aperçu que les joues de Sylvaine étaient satinées comme des pivoines. Bon, mais il n'y a pas Sylvaine. Bon, j'ai traversé un pré où il y avait des jonquilles éparpillées. Et au milieu, il y avait une fleur bleu ciel, de je ne sais quelle espèce, sinon qu'elle était douce et satinée. Point. Et puis c'était le moment où le grillon faisait entendre ses appels amoureux. Ça, j'ai le droit d'en parler quand même. C'est le printemps chez les animaux, hein. Ils ont le droit, eux. Et oui, et puis Sylvaine, elle aime quand je lui raconte ça, qu'à la belle saison, les chauves-souris se réveillent, les moustiques dansent, la chouette hulotte dans le bois, répand son cri, une femelle lui répond, peuplée de silence, d'une belle sonorité, ils ont senti venir le temps des lits. Et puis c'est le moment aussi où la grillonne fait se battre les mâles et offre sa tanière au vainqueur. Sylvaine, elle aime toutes ces histoires. Elle croit que c'est moi qui les invente et je ne lui ai pas dit que c'était Pépé. Je lui dirai peut-être. Non, mais ce n'est pas besoin que j'en parle dans la rédaction. Et Sylvaine, elle est comme le prof, il dit pour autre chose, elle est hors sujet. Parce qu'à la maison, quelquefois, mes parents, ils me disent « tu ne nous racontes jamais rien ». Je ne pense pas qu'ils attendent que je leur dise que hier j'étais à Le Bois avec Sylvaine et qu'on s'est embrassé, elle se serrant très fort. Ça, c'est drôle parce que quand j'étais à l'école maternelle, hein, tous les soirs. Alors, t'as une petite copine, hein? Coquin, comment elle s'appelle? Ils ne me le demandent pas maintenant. Ils doivent penser que c'est maintenant, hein, que je suis trop jeune, certainement. Bon, bien alors. La nature était plus colorée que d'habitude, je l'ai vu comme jamais je l'avais regardé, oui, il va rien comprendre, hein. Je sais pas que j'étais... Pourtant, nous, avec Sylvaine, on aimerait continuer à vivre notre printemps. Je crois que de ma rédaction, j'ai au moins la conclusion. J'ai passé un bel après-midi dans la nature, un après-midi bleu ciel.
Handitene pausada Gibelila
txoiegin eta asperena jardira.
On était fiers de notre grand-père. Pour rien au monde, on aurait manqué une promenade avec lui ou une soirée. Il y avait déjà des réclames dans les journaux pour les téléviseurs. Les 30 cm, les 40 cm, en noir et blanc, évidemment. Avec la caisse en chêne ou en acajou. Pour la sortir à votre intérieur, comme c'était marqué. On n'en avait pas besoin, on avait un pépé parfaitement assorti. Mais il y a toujours des imprévus. Un soir, on était autour de la cheminée. Il faisait terriblement mauvais. Il y avait un orage dans l'air. Alors Pépé, dans ces cas-là, il racontait une histoire terrible, toujours. C'était le diable en personne qui était venu de l'autre côté de la frontière pour s'attaquer à un troupeau de moutons qui avait fait le plus grand dégât qu'une épidémie de tremblante. Et il continuait comme ça, quand tout d'un coup, il y a eu alors un bruit phénoménal, il y a eu les braises de la cheminée qui ont volé un papillon de feu, et nous, de peur, on s'est vite retirés de la cheminée, mais Pépé, qui était moins leste que nous, non. On était tout mascaré de suie. Alors on est allé nous se laver. Quand on est revenu, Pépé, il avait laissé tomber sa pipe. Mauvais signe. Et Marianne nous a dit, la foudre est tombée par la cheminée et il a pris un patac de la foudre. C'est pas possible. Alors on essayait de faire parler Pépé. On disait, et alors le troupeau de Pépé disait rien. Et alors Marianette a dit qu'il avait toujours des idées lumineuses. Il a dit, peut-être que son cœur est tombé dans l'estomac, on va le remonter avec un verre de rikiki. Il lui a donné, mais ça n'a pas fait grand-chose. Et puis quand même, on l'a encouragé. Pas un mot. Alors Mémé a dit, allez, tout le monde au lit. On est allé au lit, Pépé il a dormi pendant 2 jours. Quand il s'est réveillé, il ne parlait plus. Il restait et il ne voulait plus sortir. Alors, tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on n'était pas contents, évidemment, parce que Pépé ne pouvait plus raconter des histoires, mais on sentait que lui, il était au moins aussi malheureux que nous. Alors, il a dit, il faut faire venir le docteur. Ce n'était pas souvent. Alors, le docteur, il est venu, il a examiné Pépé. Pépé a examiné le docteur. Et puis il a dit, il a un déséquilibre nerveux. Ah bon? Et comment ça se soigne? Il a dit, ouf, il faut laisser faire, ça peut-être ça reviendra comme avant. Il n'y a rien à faire? Non, s'il veut de la camomille, donnez-lui-en. On était tranquille à son âge, il n'allait pas se mettre à l'eau, même parfumée. Et alors, il y avait le vétérinaire qui était dans la maison. Parce qu'il aidait une vache à veler. Alors il connaissait bien Pépé. Et Marianette a dit, on va lui demander. On a appelé le vétérinaire qui connaissait bien Pépé. Et il a essayé de parler avec lui, Pépé n'a rien dit. Et alors le vétérinaire nous a dit, il y a une perte d'identité et de mémoire, comme quand un caneton est élevé par une dinde. Il ne sait plus s'il est canard ou dindon. Ah bon? Et comment ça peut se soigner? Eh bien, il faut que... Il soit avec des animaux déjà. Mais à la ferme, il y a des animaux, donc ça va. Oui, mais plus près quand même. Alors, Marianne, toujours avec ses idées, a dit, Pépé, ce soir, on va aller dormir à l'étable. Alors, ils sont partis dormir à l'étable. Le lendemain matin, Pépé était comme d'habitude, mais toutes les vaches fumaient la pipe. Il y avait eu quelque chose, mais pas dans le bon camp. Et alors, à ce moment-là, Marianne a dit, il faut appeler Molette. Molette, c'était celui qui était électricien, mécanicien, rebouteux. Il arrangeait tout, pourquoi pas les pépés. Il est arrivé, il a pris l'attention de Pépé avec un voltmètre de son invention. Il l'a ausculté aussi avec encore un autre appareil qu'on ne connaissait pas. Il l'a fait souffler dans le tube de pression des pneus. Et puis il a dit, et nous avons eu notre première leçon de biologie, vous savez que dans la tête, nous avons tous un arbre de Noël allumé. Normalement. Chez Pépé, il y a des branches qui ne sont pas allumées. Non pas parce qu'il manque d'électricité, mais parce qu'il y en a trop. Alors, le patac de la foudre, vous savez, c'est terrible. C'est comme un pet de triphasé. Hein. Et alors, il y a eu des courts-circuits et il y a des branches éteintes. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est compliqué. Moi, je ne vois que l'homéopathie, mais en grand. Ah bon, et qu'est-ce que c'est? Eh bien, puisqu'il a reçu un coup de foudre, il faut qu'il en ait un deuxième. Ah bon, et alors, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que le deuxième coup de foudre enlève l'électricité en trop et ça redevient normal. Ou bien alors ça s'ajoute à celle qu'il a déjà, et là. Et troisième solution, je ne sais pas parce que je n'ai jamais essayé. Alors là, se demander une réunion de famille, parce que c'était important, ça s'est passé évidemment en Bigourdan, nous on comprenait quand même un peu, mais ils ont décidé qu'il était tellement malheureux, Pépé, qu'il fallait faire quelque chose. Et ils ont dit à Molette, mais t'as qu'à essayer. Alors, il fallait attendre le prochain orage. Jamais ça venait, c'est toujours pareil. Et puis un jour, on a entendu de loin, on a commencé à voir le vent lourd, des gros nuages, c'est peut-être un orage. C'est pas loupé, parce que Molette, qui s'y connaissait, il est arrivé tout de suite, avec son matériel. Alors ça a été dur, parce qu'il a fallu convaincre Pépé, d'abord, de sortir, de se mettre au pied du frêne qui était tout seul au milieu du pré du Saousset, assis sur une chaise en fer, tenant à la main une fourche. Et Molette, il voulait même mettre une poêle à châtaigne sur la tête à Pépé. Pépé n'a pas voulu. Enfin, il avait sa fierté quand même. Alors, et puis, l'orage, nous, on n'avait pas été autorisé à sortir, on était dedans et par le finestrou, on regardait ce qui se passait. Il y avait de l'orage, du tonnerre, jamais ça tombait tout près. Puis tout d'un coup, parce que Molette, lui, voyait bien, et il nous a dit, attention, ça va pas tarder. Boum, on a dit un gros coup, il a dit, c'est bon, les fourches ont pris, c'est très bien. Et puis on a regardé, on a vu qu'il n'y avait plus personne sur la chaise. Alors on est vite sorti. On a trouvé, il s'était espataré complètement, Pépé. Il était estourbi, roussi, mais vivant. Alors, on l'a vite porté à la maison. On l'a assis, on lui a dit, alors Pépé, tu nous racontes une histoire. Il a dit, ah là là, ah là là. Je me souviens, les copains dans les tranchées qui pourrissaient petit à petit. 9000 morts. En 14, et combien de gazés, combien de gueules cassées. Puis s'arrêter, elle a dit, aïe, aïe, et Marianne a dit, aïe, 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 je préférais le répertoire d'avant le patac de la foudre. Hein. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Pépé, il n'a plus raconté que des histoires tristes. Mais on se relayait pour l'écouter. Et il était devenu aussi triste qu'un séminaire à force de raconter des trucs comme ça. Et ça a duré plus d'un an. Et au bout d'un an, un matin d'automne, il nous a dit, j'ai envie de respirer l'air du jardin. Alors là, on a été contents. Mémé avait les larmes aux yeux, nous on l'a aidé à marcher. Elle nous a fait signe de prendre le petit banc de paille. Et elle est arrivée. Après le jardin, il s'est assis sur ce banc, donc au pied du poirier. Et puis là, il nous a parlé, à nous les enfants, il nous a dit, vous êtes allés au bois, comment il est? Il y a des cèpes déjà ou non? Et là, pendant un moment, c'est nous qui lui avons un peu parlé de tout ce qu'il nous avait déjà, lui, enseigné. Alors, il nous a même posé une devinette. Qu'est-ce qui traverse le bois sans déchirer sa robe de soie? Le soleil, on s'en souvenait. On était contents, et lui aussi. Et le soir, c'était comme si c'était la première fois qu'on entendait la légende des grenouilles géantes. Et puis, ça s'est terminé par les enfants. Vous allez vivre dans un monde sans guerre parce que l'argent des obus, des tanks, des avions, va servir pour que plus personne dans le monde ne meure de faim ou de froid. Ce sera la paix, mais la paix, il faut l'entretenir. Hein ? Et on s'est couché. Mais malheureusement, ce n'était, comme on nous l'a dit plus tard, que le mieux de la mort. Le surlendemain, il s'est éteint comme une lampe qui n'a plus d'huile. Alors, c'est à ce moment-là que, dans la famille, pour mieux voir ce monde que Pépé avait prévu pour nous, c'est à ce moment-là que, dans la famille, on a acheté la télévision. Voilà, c'était la contribution de nous trois au 30e anniversaire. Et nous en sommes évidemment très heureux. Mais moi, je le suis encore plus d'avoir pu être avec François Rosset et Michel Etchecopar, bien qu'il y ait un inconvénient. C'est vrai, avec cette manie qu'ils ont de tout improviser, on ne peut jamais répéter. François Rosset. Merci et bonne continuation.